Je vous invite à ouvrir l'Écriture, le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 20. Pour lire l'histoire d'Eutychus, le garçon qui était tombé par la fenêtre. Livre des Actes, chapitre 20, à partir du verset 7. Le dimanche, nous, Paul et son équipe, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Eutychus, ou Eutyque peut-être dans votre traduction, s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du troisième étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie ». Il remonta, rompit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui, indemne, au grand réconfort de tous. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous aimons cette parole, nous croyons qu'elle est la vérité. Et nous te prions pour que ton esprit fasse en sorte que cette parole touche notre cœur, qu'il fasse en sorte que nous recevions cette parole de ta part et que nous puissions en vivre dans les jours qui viennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à peu près aux deux tiers du livre des Actes, donc le livre qui raconte l'histoire de la première Église. Paul va bientôt entamer son voyage pour Rome et on peut dire qu'il aura ainsi conduit, porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre connue en tout cas à l'époque. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, il finit son ministère, il finit de visiter les églises qu'il a implantées lors de ses voyages, et puis il continue d'implanter de nouvelles églises. L'auteur des Actes, Luc, l'évangéliste, a placé vers la fin de son livre cette étrange histoire d'endormissement. Peut-être au cas où le lecteur du livre des Actes commencerait à s'endormir autour du chapitre 20. Voilà de quoi le réveiller, une histoire de miracle, une histoire de résurrection. Même si finalement, la résurrection en question n'est pas au premier plan du récit. Une histoire tragique, mais aujourd'hui on dirait une histoire banale, un fait divers, comme on dit, qui se termine bien, l'histoire d'un jeune garçon nommé Eutychus. La scène se passe à Troas, je vais essayer de vous raconter à nouveau un petit peu cette histoire, à Troas, au temps des premières communautés chrétiennes. Troas est un port au bord de la mer, actuellement en Turquie, mais à l'époque c'est une colonie romaine. Ce n'est pas la première fois que Paul vient à Troas. Il y est déjà passé au cours de son deuxième voyage missionnaire et c'est même là qu'il avait eu cette fameuse vision, la vision du Macédonien, un homme qui disait « Viens nous voir, viens nous visiter, viens à notre secours ». Vous savez que Paul a passé des années à parcourir le bassin méditerranéen, de ville en ville, de maison en maison. Il visitait les familles qu'il connaissait, il réunissait des chrétiens dans des maisons qui pouvait accueillir du monde, il prêchait, il enseignait, il annonçait l'Évangile, il créait de nouvelles communautés. Et c'est dans ce contexte-là que se passe notre histoire. Nous sommes, un peu comme aujourd'hui, le premier jour de la semaine, le jour où l'on célébrait la résurrection de Jésus, ce jour qui est devenu par la suite notre jour de culte, notre dimanche, le jour où les chrétiens se réunissaient. En fait, selon les jours, on pourrait dire que c'est peut-être le samedi soir qui est en cause, ou le dimanche soir, selon qu'on compte à la manière des Juifs ou à la manière des Romains, puisque les Juifs comptaient à partir du coucher du soleil le samedi, et les dimanches comptaient les jours de minuit à minuit, donc si c'est à la manière romaine, on serait dimanche. À la manière juive, on serait samedi soir. La scène se passe dans une pièce située à l'étage d'une maison. Une chambre haute, un petit peu comme la chambre haute dans laquelle Jésus et ses disciples avaient pris leur dernier repas, ou comme cette fameuse chambre haute dans laquelle les apôtres attendaient la Pentecôte au début du livre des Actes. On est dans une maison assez grande, certainement, puisqu'il y a du monde, une maison bien éclairée par de nombreuses lampes. Il faut bien se mettre la scène en tête. Paul part le lendemain. Le départ de Paul, lorsqu'il quittait une ville, devait toujours être un moment émouvant. Parce que, comment savoir si on le reverrait un jour? Tout le monde savait que Paul risquait sa vie, que l'opposition allait grandissante. Tout le monde savait que si Jésus lui-même avait dû faire face à la persécution et à la violence, eh bien Paul, son apôtre, aurait probablement à faire de même. Alors comment savoir si cette visite ne serait pas la dernière? Comment savoir si les paroles prononcées dans cette chambre haute ne seraient pas les dernières paroles de Paul à l'église de Troas? Son testament, en quelque sorte. Quant à Paul, lui, il sait ce qu'il attend. Lorsqu'un tout petit peu plus tard, il va se retrouver dans la ville de Milet et qu'il va y rencontrer les responsables de l'église d'Éphèse, il va leur faire ses adieux, tout simplement en leur disant « Le Saint-Esprit m'avertit, de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. » C'est juste au chapitre suivant, au chapitre 20. C'est étonnant cette conscience des choses de la part de Paul. On retrouve la même attitude chez Jésus, mais Paul n'est pas devin. Il ne faut pas s'imaginer qu'il connaissait l'avenir, mais il avait cette capacité de discernement qui fait qu'en lisant les événements présents, eh bien, il pouvait en déduire des conclusions concernant l'avenir. Alors, voilà, dernier moment ensemble, dernière parole, dernière question. Les chrétiens sont réunis dans cette maison pour partager une dernière fois le pain et le vin ensemble avant le départ de l'apôtre. Et ce partage du pain et du vin, c'est un repas en réalité, puisque à l'époque, on prenait la scène en général au cours d'un repas fraternel. C'est une description qui est très simple, qui ressemble beaucoup à tout ce qu'on peut lire dans le livre des Actes sur la vie de l'Église. On se réunit le premier jour de la semaine, ensemble, on partage le pain, on écoute la parole. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens, c'est ce que nous faisons nous aussi encore aujourd'hui. Il y a des repères forts, premier jour de la semaine, jour de la résurrection, chambre haute, lieu de communion, partage du pain en souvenir de la croix. Des expressions chargées de sens pour les premiers chrétiens comme pour nous, mais des expressions très simples, il faut le redire. Mais voilà, le repas tarde à venir, ça arrive au restaurant, ça arrive chez soi, ça arrive dans la chambre haute ce jour-là. Paul a tellement de choses à dire avant de partir que le moment du repas n'en finit plus d'arriver. Mettez-vous à sa place, hein. Les dernières recommandations, les dernières paroles. Si vous avez, puisque c'est la période en ce moment, un enfant qui part en colonie de vacances, c'est bien certainement au dernier moment, vous aurez plein de choses à lui dire. Alors vous imaginez quand c'est la dernière fois que vous voyez quelqu'un, tellement de choses à dire. C'est là qu'arrive le deuxième héros de notre histoire après Paul. C'est donc apparemment un jeune garçon qui s'appelle Eutychus, ou un jeune homme, c'est difficile de savoir exactement, on pourrait peut-être traduire que c'est un jeune esclave dans le texte, mais si c'est le cas, eh bien, il avait eu une longue journée de travail, il était fatigué, ça pourrait expliquer ce qui s'est passé ensuite, mais je pense que c'est un jeune garçon, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, peut-être 14 ans. Est-ce que c'est pour ça qu'il est assis au fond, comme certains jeunes, aujourd'hui encore? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est aussi parce que la chambre haute n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde? Il fallait aller jusqu'au bord des fenêtres pour s'installer. Est-ce qu'il avait besoin d'air frais pour pouvoir rester éveillé? Et donc il s'est mis sur la fenêtre. Toujours est-il qu'il s'est placé à un endroit un petit peu risqué. Vous savez comment ça se passe dans les réunions? Quand ça dure trop longtemps, il vient un moment où on n'entend plus que le son de la voix de la personne qui parle. On n'entend plus ses paroles. Simplement la musique de sa voix, on ne sait plus ce qu'il est en train de dire. Un peu comme dans ce texte, quand nous le lisons, nous savons que Paul parle, mais le texte nous le répète, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il dit, puisqu'il ne nous retranscrit pas ses paroles. Alors, malgré les nombreuses lampes qui illuminent la pièce, les paupières se ferment. L'envie de dormir devient de plus en plus forte, comme quand on conduit parfois de longues heures sur l'autoroute, et c'est le moment où il faut s'arrêter. Le sommeil l'emporte et notre garçon bascule dans le vide et dans la mort. Il est minuit. Rappelez-vous que les disciples de Jésus, dans le jardin de Gethsémané, à minuit, à cette même heure, essayaient de veiller avec le Seigneur, mais ils étaient tellement fatigués qu'ils s'endormaient. Les auteurs du Nouveau Testament semblent penser que dans les moments importants, eh bien, l'être humain a tendance à s'endormir. On ne peut pas compter sur une personne dans les moments clés. C'est humain, nous avons tous tendance à nous endormir. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'Évangile nous invite à veiller, à rester éveillé. Alors, il y a des temps pour dormir, mais il y a aussi des temps pour rester éveillé, et il ne faut pas se tromper de moment. Mais revenons à Eutychus. Voilà qu'il est tombé par la fenêtre. Le discours de Paul, bien sûr, s'est tout de suite interrompu. C'est un événement qui ne permet pas qu'on continue de parler. Tout le monde a couru en bas, tout le monde est autour du jeune homme, tout le monde dit qu'il est mort. Paul a réagi tout de suite, c'est un prédicateur, mais il a les pieds sur terre. Et alors, il va faire comme les anciens prophètes d'autrefois, comme Élie, comme Élisée. Paul prend le garçon dans ses bras et il le serre contre son corps. Il y a un moment de silence, puis Paul dit ceci, « Son souffle est encore en lui. » Donc le jeune homme respire. Élie avait guéri le fils de la veuve de Sarepta, Élisée, de la même façon, avait guéri dans l'Ancien Testament un autre enfant par le moyen de ce contact corporel. Ce sont des événements très particuliers, des résurrections accomplies par des personnages très particuliers à des moments très particuliers de l'histoire du salut. Mais on peut se demander, et certains se posent la question, est-ce qu'il y a eu vraiment miracle ? Certains disent non. D'après eux, Paul aurait simplement pris l'enfant dans ses bras et puis il aurait dit « je sens qu'il respire encore ». Je remarque que le texte ne dit pas explicitement qu'il y a eu miracle, mais et Paul ne se vante pas de ce miracle, il n'en reparlera à aucun moment dans ses lettres, on n'en parle pas dans la suite du récit, personne ne parle de résurrection. Mais si personne n'en parle, je crois qu'on peut dire que tout le monde y pense. Le texte le dit bien, il était mort. S'il était mort, c'est qu'il est revenu à la vie, donc il y a eu miracle. Mais la discrétion du texte, je trouve, est quand même intéressante. Ce miracle, qui est spectaculaire et qui est peut-être même le dernier miracle de l'apôtre Paul, n'est pas mis en avant. Qu'est-ce qui est mis en avant ? C'est la prédication de Paul qui occupe la première place et le culte de la communauté chrétienne. C'est frappant. Verset 10, « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Paul remonta, il prit du pain, il mangea et il continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. On ne s'étend vraiment pas sur le miracle. Paul ne se présente pas comme un faiseur de miracles. Il est un prédicateur, il est un enseignant, il est un apôtre, il est un pasteur. Il se passe quelque chose d'étonnant dans cette histoire. Ce qui arrive au garçon, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est que ça se passe dans le cadre de la communauté chrétienne, dans le cadre de ce groupe où la parole est prêchée, de ce groupe qui se réunit pour la communion fraternelle, pour prendre les repas, pour partager ensemble le repas du Seigneur. Et du coup, ce repas-là, ce jour-là, prend une coloration très particulière. Le garçon est mort, il est revenu à la vie. Paul s'arrête d'enseigner, le repas peut commencer en plein milieu de la nuit, mais c'est un repas qui prend une valeur toute particulière, la valeur d'un signe, puisqu'il accompagne une résurrection, qui rappelle bien sûr celle du Christ. La nuit est déjà bien avancée, les croyants sont rassemblés, certains ont les yeux qui se ferment, mais ils sont là. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il donne la vie, la parole est prêchée. Et alors, mes amis, quel repas ! Quel repas ! Il ressemble vraiment au dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il ressemble au repas que les chrétiens ont continué à prendre par la suite, ensemble, jusqu'à aujourd'hui, et nous allons le faire dans un instant. Eutychus, en grec, ça veut dire chanceux. Pourtant, chanceux n'a pas eu de chance. Il est tombé par la fenêtre. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais c'est sur lui que c'est tombé. Comme on dit, c'est la faute à pas de chance. Lorsque le texte dit que Eutychus est gagné par le sommeil, il ne faut probablement pas y voir de la paresse ni un manque d'intérêt. Au contraire, Eutychus voulait en être, il voulait être là, il voulait être enfermé dans cette pièce surpeuplée, il voulait entendre les paroles du grand apôtre. Il a pris le risque de s'asseoir sur une fenêtre. Il n'a peut-être pas bien choisi sa place. C'est tombé sur lui. Il avait la mauvaise place, c'est la place du mort, comme on dit. On ne savait rien de lui avant, on ne saura rien de lui après. Il est comme tout le monde, quelqu'un qui subit des événements incompréhensibles, inexplicables, dont il n'est pas responsable. Mais rappelez-vous ceci, Eutychus, chanceux, a subi un coup de malchance, mais le Saint-Esprit ne l'a pas laissé être emporté par cette malchance. Il lui a donné à nouveau le souffle de vie. Et le souffle de vie de l'esprit est plus fort que tout ce que nous appelons malchance, que toutes les malchances qui peuvent nous tomber dessus. Il est plus fort que les événements qui nous arrivent sans prévenir. Eutychus, chanceux, a reçu un souffle nouveau. Et nous aussi, frères et sœurs, dans la communauté chrétienne, dans la communauté de l'esprit, nous pouvons recevoir le souffle nouveau qui nous permettra de nous relever, qui nous permettra de repartir, qui nous permettra de retrouver la vie, de vivre à nouveau, quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres, et il faut bien le dire, quels que soient parfois les coups de malchance qui nous arrivent. Frères et sœurs, que le Seigneur, ce matin encore, nous renouvelle par son esprit, nous remette debout et nous renvoie dans le monde pour accomplir la mission qui est la nôtre. Amen.